Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carifor-F des Hauts-de-France. Nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale consacrée au plan d'investissement régional dans les compétences en Hauts-de-France, le PACTE. Nous avons le plaisir d'accueillir et de vous faire découvrir un acteur ou un porteur de projet du PACTE pour nous présenter un dispositif ou une action engagée. Avec le témoignage de notre invité, nous saurons tout quant au contexte, au choix du format, aux partenaires associés, aux ambitions, aux réussites, mais aussi aux difficultés rencontrées à cette occasion.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du C2 Podcast, un épisode que nous allons aujourd'hui consacrer à un dispositif qui répond à un intitulé que je vais lire pour ne pas commettre d'erreur et qui nous dit, qui s'appelle « Modernisons avec les organismes de formation ». Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir M. Arnaud Coulon, qui est responsable de projet du Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences au Conseil Régional Hauts-de-France. Bonjour Arnaud et merci d'avoir répondu à l'invitation.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous et merci de m'accueillir.
Et on va rentrer directement dans le vif du sujet puisque j'ai réussi à donner l'intitulé « Sans faire erreur, modernisons avec les organismes de formation ». En quoi consiste ce dispositif de projet dont le nom est quand même un petit peu... suscite un petit peu de curiosité de ma part puisque moderniser veut probablement dire un petit peu digitaliser, mais on va essayer d'y voir un peu plus clair.
Alors c'est d'abord une action ou une volonté politique, ce projet. Et cette volonté, elle peut se traduire de la manière suivante. Nous souhaitons sécuriser le secteur économique représenté par les organismes de formation en région Hauts-de-France. À partir de là, à partir de cette volonté politique, les services techniques de la direction de la formation professionnelle ont conçu un dispositif à destination des organismes et qui a pour objectif finalement de les accompagner dans la transformation à la fois de leur offre, mais aussi probablement à terme de leur organisation et la montée en compétence de leurs équipes afin de répondre à plusieurs enjeux. Le premier, c'est faire face à l'arrivée d'une nouvelle concurrence, plus vraiment nouvelle finalement, et je pense notamment à ce monde qui semble en parallèle aujourd'hui, que l'on nomme le monde de la EdTech. On sait que du côté de EdTech France, qui est une fédération très, très dynamique, représentant plus de 400 startups aujourd'hui, on sait qu'il y a eu des levées de fonds importantes. Quand on regarde le paysage au niveau international, on sait aussi qu'une startup indienne qui s'appelle Byju's a levé quasiment 600 millions dernièrement de dollars et qu'elle va investir sur les marchés de l'éducation européens très très prochainement. On sait que des licornes françaises comme Open Classroom ou 360 Learning ont fait aussi des levées de fonds très importantes. Et moi, ma question, ou en tout cas la question que je pose systématiquement aux organismes de formation, c'est quel est le fonds d'investissement aujourd'hui qui parie sur vous ? Quand on sait qu'un des gros opérateurs qui s'appelle Demos a été racheté en 2016 par des Chinois, ça en dit long aujourd'hui sur la fragilité du secteur et les évolutions qu'il va probablement devoir alors soit subir s'il ne se prépare pas, mais à minima auquel il va devoir faire face. Et ces évolutions, on les connaît, on les a anticipées il y a plus de 20 ans de cela. Le sujet, c'est l'introduction des technologies dans les process de formation. Et en face de cela, on a des acteurs qui sont des pure players, qui arrivent sur le marché et qui feront très probablement à terme, bien que ce marché soit à la fois privé, mixte et public, et encore très administré, très encadré réglementairement, et on pourrait avoir le sentiment qu'il est très protégé finalement. Néanmoins, on sait aussi que dans d'autres secteurs d'activité, ces pure players qui ont pris le temps d'avance, aujourd'hui on ne peut plus les rattraper. Et ça, on ne le souhaite pas, en tout cas pour les organismes de la région, qui sont aussi nos fournisseurs, des prestataires de services, et qui nous permettent d'animer nos politiques publiques en matière de formation des demandeurs d'emploi, bien entendu. Ensuite, il y a effectivement un élément assez, conjoncturel, qui est la crise sanitaire, la crise Covid que nous avons connue et dans laquelle nous sommes encore tous baignés, si je puis dire les choses ainsi, et qui a été une sorte de deuxième révélateur, deuxième effet qui se coule, j'allais dire, puisque cette crise a à la fois constitué une opportunité pour un certain nombre d'organismes de formation qui étaient déjà préparés ou qui avaient déjà expérimenté et investi pour développer une offre en mixed learning ou en 100% à distance, de pouvoir faire face à ces nouvelles contraintes qui étaient liées à la crise sanitaire et donc assurer une continuité de service. Mais ça a été aussi un révélateur de la relative faiblesse et impréparation d'un certain nombre d'autres organismes de formation qui ont besoin aujourd'hui de pouvoir être accompagnés, outillés, stimulés, drivés dans ces projets de refonte, alors à la fois de parcours, d'offres de services, de production de contenu, mais pas que, parce que même si le cœur de métier d'un organisme de formation, bien entendu, c'est de concevoir et de délivrer de la formation, derrière, c'est des process de travail, c'est une vision de son marché, qu'il soit public, parapublic, privé, peu importe, individuel, marché B2B2C avec ce CPF. Quoi qu'il en soit, tout ça a des impacts qui dépassent largement les questions d'ingénierie. Et c'est de cette manière qu'on a conçu ce dispositif d'accompagnement en ayant une approche assez globale finalement. Et en se disant, il faut qu'on aborde les choses de manière stratégique, organisationnelle, sociale aussi, dans la dimension professionnalisation des équipes, une dimension technologique aussi, puisque ce dispositif permet à des organismes qui n'en sont pas dotés de pouvoir bénéficier pendant 2 ans d'applications qui leur permettront soit de faire du développement de contenu numérisé et ou de distribuer ensuite, de pouvoir distribuer ensuite ces contenus dans le cadre de parcours qui sont ensuite animés, bien entendu, par les formateurs et formatrices de ces organismes.
Après avoir vu à l'instant l'environnement, les ambitions du dispositif, comment Arnaud expliquer sa mise en œuvre? Comment nous la décrire?
C'est un dispositif assez complet d'accompagnement qui se déroule en plusieurs étapes. Peut-être en amont, se dire que nous n'avons pas souhaité mettre de barrière à l'entrée finalement. On a voulu jouer la carte de la simplicité. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il suffit d'aller sur le site du C2RP, de consulter l'appel à candidature, de télécharger le template Excel qui fait une page, qui comporte un certain nombre de rubriques avec des menus déroulants, de le renseigner, de faire son autodiagnostic de maturité digitale et à partir de là, nous envoyer la candidature. Donc je disais simple, accessible. Néanmoins, nous avons posé un certain nombre de critères d'éligibilité, bien entendu. Sont prioritaires les organismes qui opèrent sur le marché de la région ou les marchés de la région, donc SIEG ou PRF. Mais quoi qu'il en soit, cet appel à candidature est bien entendu ouvert à tous les organismes de formation des Hauts-de-France. Et donc, de ce point de vue-là, n'est en aucun cas discriminatoire, bien entendu. Donc, c'est un engagement volontaire. Et ça, je crois que c'est un élément essentiel, en tout cas sur la phase amont. Ensuite, il y a un séminaire que l'on appelle séminaire d'onboarding. Il faut qu'on engage les dirigeants de ces structures. Et ça, on le fait à travers un séminaire qui dure une demi-journée, dans lequel, bien entendu, on rappelle le cadre, notre ambition régionale, on la partage. Et puis, on explique étape par étape le déroulé de la démarche. Et surtout, on revient sur ces questions d'évolution de l'environnement en essayant de vulgariser ce qu'on appelle la transformation digitale. Sachant que, bien entendu, notre ambition, elle n'est pas de transformer le modèle économique des organismes de formation, mais peut-être de les inciter à y penser, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui et des nouveaux modèles économiques, et notamment autour de la plateformisation de services. Mais plus modestement, après ce séminaire où ils ont été onboardés et motivés, ou remotivés, ou encore plus motivés si c'était nécessaire, en tout cas, ils partent avec quelques clés. On a une ambition qui est partagée et ils ont pu rencontrer le prestataire qui va les accompagner et préparer la première étape qui est en fait l'étape d'état des lieux que moi j'appelle état des lieux projectif. Ce qu'on a souhaité côté région, c'est éviter de faire un peu ce qu'on a trop vu par le passé, c'est-à-dire financer beaucoup de diagnostics et très peu de mise en œuvre. Donc, je crois que cet état des lieux projectif, en fait, il combine à la fois un diagnostic un peu panoramique, stratégie, positionnement, analyse des process, des cartographies des outils et du matériel, état des lieux des compétences des équipes et ambition. Et puis, le prestataire, les consultants négocient avec le dirigeant, la dirigeante, ce qu'on va appeler un pré-plan d'action, donc une liste de chantiers qui va organiser sa modernisation ou sa transformation. À l'issue, ces éléments nous sont présentés, donc sont présentés à un comité de sélection qui est animé par les acteurs de la région. Et sur la base des éléments documentaires qui nous sont rapportés, nous analysons la situation, donc les éléments d'état des lieux, et puis surtout l'ambition future telle qu'elle est définie par le dirigeant, et puis le pré-plan d'action qui est associé. Une fois qu'on a dit go, ça peut être aussi no go, donc on peut juger que les conditions ne sont pas tout à fait réunies ou que certains points nous semblent à préciser ou à approfondir. Jusqu'à présent, en tout cas, sur la première vague d'organismes qui a été lancée, en l'occurrence 37, mais dont 35 effectifs, puisque deux autres sont aujourd'hui décalés et reportés en vague 2 et en vague 3. En tout cas, ce que l'on constate, c'est que nous n'avons pas prononcé pour le moment de stop aux interventions et que s'il y a de la régulation à faire, elle s'opère aujourd'hui de manière tripartite entre le prestataire, nous-mêmes et l'organisme de formation, et les choses se passent de manière très très fluide.
C'est extrêmement clair. Merci Arnaud. Peut-on désormais s'intéresser à un premier état des lieux, au premier retour consécutif à toutes ces initiatives et que l'on peut partager avec les personnes qui vont nous écouter ?
Les premiers retours que l'on a sur ces états des lieux sont très intéressants, très très intéressants sur la situation réelle des organismes, sur l'intégration, le niveau d'intégration des technologies dans leurs process, sur les usages qu'ils font des outils qu'ils ont pu soit acheter, soit louer, soit acheter sur étagère en termes de contenu, soit qu'ils ont pu bénéficier d'une aide État ou région pour pouvoir s'équiper. Mais l'état des usages est aussi très intéressant de ce point de vue-là. Et puis tout le questionnement autour des apprenants et de la manière dont demain ils pourraient hybrider leur parcours et en quoi ça vient finalement re-questionner à la fois leur relation avec les apprenants bien entendu, mais aussi l'ingénierie des parcours, leur capacité à produire des contenus, à individualiser, mais aussi à repenser pour certains d'entre eux leur positionnement et donc plus largement leur stratégie en tant qu'organisme de formation. Je pense qu'il y a plus qu'une prise de conscience aujourd'hui, une réalité là qui n'apparaissait pas vraiment, qu'il n'arrivait pas à toucher du doigt, et je pense que là on y est quoi, c'est-à-dire qu'ils comprennent bien que c'est le moment de se mettre en mouvement et d'y aller, et je pense qu'ils mesurent actuellement avec ces accompagnements l'effort qu'il va falloir faire dans le temps. Et ça, c'est le travail autour de ces pré-plans d'action qui est intéressant, puisqu'il les met en tension, il les met déjà en projection avec une estimation de jours à consacrer. Et ça, c'est pour nous des éléments fort intéressants. Il y aura à l'issue de tout ça, bien sûr, une capitalisation, une analyse transversale qu'on va réaliser pour réalimenter éventuellement d'autres actions ou réalimenter peut-être une partie de nos orientations stratégiques en matière de politique publique, en matière de formation.
Et une fois que l'accompagnement est terminé, que se passe-t-il ? C'est-à-dire, quels sont les liens qui peuvent persister avec les organismes qui ont été accompagnés ?
Nous souhaitons avoir des organismes de formation qui puissent témoigner de la réalité de cette transformation, de cette modernisation et montrer que c'est possible. Voilà, de se réorganiser, de se réformer, de définir une nouvelle promesse client ou usager, de revoir son ingénierie, son organisation et de faire en sorte qu'on arrive à augmenter la valeur finalement interne et vis-à-vis des usagers.
Ça provoque quand même, pour avoir observé un certain nombre d'organismes digitaliser leur offre, pour beaucoup consécutivement à la crise sanitaire que l'on a vécue, j'ai pu observer, ça n'est peut-être pas systématique, mais j'ai pu observer que ça provoquait des changements, pour ainsi dire, considérables en interne. C'est-à-dire qu'il leur faut recruter des compétences qu'ils n'avaient pas,
C'est donc des investissements qui sont relativement considérables. Il faut faire évoluer l'offre, même si la clientèle ne change pas, qui reste la même. Clientèle qui se satisfait de voir arriver quand même des solutions digitales, parce que le client final est souvent demandeur aussi d'une partie de digitalisation. Comment est-ce qu'il y a des indicateurs quelque part qui permettraient de faire des réajustements pour l'accompagnement de tous ces organismes qui sont candidats à être pris en charge, à être accompagnés durant ce projet? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent de réajuster? Parce que ça peut vite aspirer quelque part un petit peu tout l'organisme dans une spirale où il faut grossir. Et donc, est-ce qu'il y a un petit accompagnement? Est-ce qu'il y a peut-être aussi... C'est un deuxième volet de ma question. Est-ce qu'il y a aussi une incitation à se réunir, à créer des consortiums, voire à envisager des rapprochements? Parce que en rentrant, en mettant les pieds dans le secteur digital, ils mettent les pieds dans un secteur qui est extrêmement concurrentiel, où, comme vous l'avez dit, on peut, si on mène bien sa barque, obtenir des financements pour le moins considérable dans certaines situations. On a pu entendre quelques noms d'entreprises, il y en a d'autres sur le secteur du digital, Klaxoon, Teach on Mars, Bidiz et d'autres encore. Il va s'agir d'être armé pour survivre, non pas pour les 3 à 5 ans à venir, mais peut-être pour un petit peu plus encore.
Alors, sur la question des indicateurs qui témoigneraient de la transformation, si j'ai bien compris la question.
De la transformation de réajuster justement parce qu'il y a une trajectoire longue, normalement, à suivre.
Je crois que ce qu'on demande aujourd'hui, nous, aux consultants qui interviennent et surtout aux organismes qui co-construisent tout ça de concert, c'est que, à la fois sur l'état des lieux initial, on puisse disposer justement de ces indicateurs à la fois de fonctionnement, d'organisation. Quand je parlais tout à l'heure de ces cartographies des compétences des équipes, pour nous, ce sont des indicateurs très très intéressants. On s'appuie sur un certain nombre de référentiels pour positionner. On a des graphes radars aujourd'hui qui nous permettent de savoir quel est le portefeuille de compétences des équipes, mais aussi quelle est la représentation que le dirigeant a, lui, du portefeuille de compétences de ses équipes. On a là un sujet parfois un peu étonnant. Mais donc ça fait partie de ce lot d'indicateurs, de choses qui sont tangibles. Ce que je veux dire par là, c'est que il suffit pas de dire je produis de la ressource. La question, c'est de savoir elles sont où, il y en a combien. Quel est le niveau de qualité? A-t-on défini des standards de qualité, des modes de distribution? A-t-on défini les usages associés dans des situations d'apprentissage? Toute cette formalisation, cette exigence dont on sait qu'elle est intrinsèquement liée à l'usage de ces technologies, elle demande un niveau d'exigence en termes d'ingénierie qui est beaucoup plus important, j'allais dire. Et donc derrière, il y a toutes ces questions de transformation des métiers, mais ces indicateurs, soit ils existent et tant mieux, soit il faut les construire rapidement sur l'état des lieux initial pour qu'effectivement ensuite on puisse se dire en fonction de la trajectoire et donc de la liste des chantiers qui constituent cette trajectoire de modernisation et de transformation, avec des niveaux d'ambition qui sont très variables. On a des situations aujourd'hui qui vont de l'organisme qui a déjà beaucoup investi, qui est très équipé, qui a déjà développé des usages et qui a besoin de challenger un petit peu sa situation, ses orientations pour savoir s'il est dans la bonne direction, par exemple. Et là, on vient simplement approfondir, consolider, challenger un peu, avec des organismes qui sont dans une maturité beaucoup plus modeste et qui nécessite qu'on parte de quasiment from scratch, du début. Et là, effectivement, on n'aura pas forcément les mêmes indicateurs d'évolution. Mais je crois que ce qui est important pour nous, c'est effectivement d'arriver à jalonner, donc avec des choses qui soient tout à fait tangibles et des marqueurs de la transformation, des choses qu'on pourra aussi observer. Et puis, au final, je le disais, ne pas oublier que pour nous, la cible, le Graal, c'est nous souhaitons avoir des démonstrateurs. Donc, ils nous montrent concrètement qu'ils ont progressé entre l'état initial et demain, pour pouvoir se dire que tout ça est satisfaisant, sachant que derrière tout ça, on pourrait se dire comment on va reconnaître cet effort. Là, la réflexion est très ouverte. Si je me réfère à, et pas du tout en m'avançant, très honnêtement, d'un point de vue région sur le sujet, mais il va bien falloir qu'à un moment donné, par-delà cette mise en mouvement des organismes, ils puissent être aussi incités quelque part à distribuer cette formation nouvelle génération, entre guillemets. Et ça veut dire qu'il faut que ça se traduise à un moment donné, y compris dans les cahiers des charges de nos marchés. Aujourd'hui, nous avons déjà beaucoup évolué puisqu'on autorise un organisme à pouvoir distribuer jusqu'à 30% de son parcours en formation ouverte à distance. On a eu aussi un marché 100% à distance. Donc, on est bien dans cette logique où finalement, la partie un peu innovation d'un côté, à travers ce projet modernisant avec les OF, on en tire des enseignements qu'on va reverser dans les dispositifs plus régaliens, j'allais dire, de fonctionnement habituel pour faire en sorte qu'il y ait une cohérence globale. Ça, c'est pour le premier sujet. Sur le deuxième sujet autour des acteurs EdTech, pour l'avoir vu dans d'autres secteurs d'activité, je pense que une des portes à ouvrir très rapidement pour un certain nombre d'organismes, c'est pas celle de devenir un pure player, parce que par définition, ce serait complètement contre nature, surtout pour des organismes qui historiquement ne viennent pas de ce monde, bien entendu.
Et qui peuvent aussi y être venus, peut-être en traînant un peu des pieds.
Exactement, exactement, parce que quelque part, ça s'oppose à un certain système de valeurs. Hein. Je pense qu'on a
absolument
des questions culturelles aussi qu'il y a à régler, ou des dilemmes culturels, ou des hiatus culturels, probablement, quelque part. Mais en même temps, voilà, on voit quand même que dans les premiers accompagnements, tout ça est... C'est-à-dire que le levier qui peut être représenté par l'usage des technologies dans les process et dans les organisations, finalement, chacun se le réapproprie selon son histoire, son contexte, bien entendu. Néanmoins, il y aura probablement à un moment donné un changement de mindset hein, ou d'état d'esprit, pour parler français, à accompagner aussi. C'est pour ça que dans beaucoup d'accompagnements actuels, dans les chantiers que j'évoquais tout à l'heure, qui constituent ces trajectoires de transformation, on a souvent un travail aussi sur l'organisation interne, donc les process, mais aussi sur la conduite du changement et comment on fait en sorte que les dirigeants soient plus outillés, plus en capacité de pouvoir accompagner ces changements avec leurs équipes au sein des organisations. Et je disais tout à l'heure, la porte la plus facile à ouvrir de mon point de vue, c'est celle de la coopération et des alliances. C'est comment on va nouer des coopérations et des alliances avec des acteurs qui, eux, ont déjà fait cet effort d'investissement, disposent peut-être de solutions qui pourraient nous être utiles pour pouvoir nous développer sur d'autres marchés ou augmenter notre valeur, que ce soit pour les usagers ou pour l'interne. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on stimule, probablement, soit dans un autre dispositif, soit par des rencontres simplement entre ces mondes qui parfois peuvent s'ignorer, même s'ils cohabitent sur un même secteur d'activité et qu'ils partagent un certain nombre d'enjeux, de mon point de vue.
On a parlé de l'accompagnement. J'ai bien compris que l'accompagnement consistait donc à permettre de produire des ressources, mais en termes de vision globale, est-ce que les équipes dirigeantes de ces structures sont aussi accompagnées pour développer cette vision, développer leurs projets ?
Alors bien entendu, la figure du dirigeant dans des structures de type TPE-PME est surdéterminante dans la réussite de ces projets. D'abord, c'est renforcer sa capacité à animer ses équipes, l'aider à avoir une réflexion stratégique peut-être plus aboutie, plus approfondie, l'aider aussi à bien décrypter son environnement, ce qui est parfois compliqué quand on est positionné en région et que son territoire est celui sur lequel son territoire géographique est son unique zone de chalandise. De ce point de vue-là, on a jugé, nous, assez primordial de pouvoir leur proposer un cycle d'accompagnement. Nous avons lancé, avec l'appui du C2RP, un appel d'offres pour pouvoir construire ce cycle d'accompagnement des dirigeants. Sur la base du volontariat, ils pourront s'inscrire à ce cycle, bien entendu, sur la base du volontariat, et avec différents focus. Le premier, c'est sur comment on appréhende la transformation digitale, que ce soit dans son secteur, mais surtout en dehors de son secteur, comprendre quels sont les leviers aujourd'hui pour faire face à tout ça et les modèles qui sont émergents. La deuxième, c'est plutôt sur l'entrepreneuriat, l'effectuation, et c'est comment je fais avec les moyens du bord pour me transformer. Et puis, dernier sujet, c'est les aider dans la concrétisation des plans de transformation qu'ils portent auprès de leurs équipes et de leur organisation, et de les éclairer sur tout ce qui est lié aux méthodes agiles aujourd'hui et au repositionnement et donc la redéfinition de la posture managériale dans un monde qui est très incertain aujourd'hui, on le sait, et qui fragilise finalement les lignes managériales. Voilà, donc je pense que ce cycle d'accompagnement, c'est un des leviers de réussite des projets de modernisation et de transformation. Il faut qu'on aide ces dirigeants et ces dirigeantes qui sont déjà fortement mobilisés et impliqués. Mais notre devoir, je pense, c'est de leur proposer un peu de soutien méthodologique et d'outils pour pouvoir accélérer sur ces projets.
Une ou deux petites questions comme ça de curiosité par rapport à ce panorama du projet. On voit qu'il s'est agi de les inciter, et ils sont peut-être même venus spontanément se porter candidats à être accompagnés pour digitaliser leur formation. Mais quel était leur niveau de maturité digitale, s'il existe un niveau qui puisse être défini? Parce qu'on peut très bien ne pas avoir voulu digitaliser parce qu'on avait une offre qui se prêtait probablement mieux à être proposée au format majoritairement présentiel. Je ne veux pas opposer les formats, mais est-ce qu'il y avait un niveau de maturité, ou est-ce que, justement, Covid aidant, ça a aussi peut-être été perçu comme une bouée de sauvetage?
C'est très compliqué comme question.
C'est un peu poil à gratter.
Oui, autour de... Non, alors c'est... Je veux dire, cette maturité digitale, j'évoquais tout à l'heure sur l'amont, sur la candidature, nous les incitons à aller réaliser cet autodiagnostic de maturité digitale qui a été d'ailleurs développé dans le cadre du PIA FFP, et qui est pour nous simplement une sorte d'input, un indicateur d'entrée qui nous permet de positionner aussi les organismes et le niveau de besoin. Ce qu'on voit quand même, c'est que majoritairement, nous avons plutôt des profils d'observateurs par rapport au digital, et très peu finalement d'organismes qui auraient un profil de développeur ou de challenger. Ceci étant dit, voilà, avec tous les bémols de ce type d'autodiagnostic, bien entendu, à un moment donné, il faut bien rentrer dans le cœur de l'organisation et de voir quel est son modèle et ses usages autour notamment de ces outils, pour pouvoir avoir une idée un peu plus précise de leur niveau de maturité. Ce qui est assez surprenant, en tout cas, à travers un certain nombre de ces états des lieux, c'est de voir que, je le disais tout à l'heure, l'équipement et l'outillage ne fait pas tout. Quand on regarde les usages de ces outils et de ces équipements, par moment, on a parfois des Rolls-Royce, on avance très, très lentement, finalement, et on en fait peu de choses. Donc, je crois que le challenge, il est vraiment autour de la professionnalisation des équipes. Je crois que ça, c'est un défi majeur pour les organismes. Pas forcément en allant rechercher de la ressource et de la compétence à l'externe. Je crois qu'après, ce sont des choix que les dirigeants doivent faire eux-mêmes, bien entendu, en tant que dirigeants d'entreprise, de structure associative, peu importe leur statut juridique, mais... Le pari à faire, c'est bien celui du développement des équipes et de la montée en compétences de ces équipes, y compris sur des métiers qui sont des métiers complètement émergents, sur lesquels on a très peu de référentiels aujourd'hui. Et on voit quand même quelques OF aujourd'hui qui ont bien saisi tout ça et qui font émerger aujourd'hui des référents numériques et qui vont venir jouer le rôle de, bah justement, de poil à gratter à l'intérieur des équipes, qui sera le référent des questions digitales, des usages et des équipements, et qui va stimuler les autres équipes. Donc on voit bien que ça commence à bouger dans un certain nombre de structures.
Très bien. On a une bonne description de la nature du dispositif, des candidats, et puis de ce à quoi ils sont invités à réfléchir et quelle direction ils sont invités à prendre. Les candidatures sont-elles encore ouvertes, et si c'est le cas, jusqu'à quand?
Alors, les candidatures sont bien entendu encore ouvertes. Nous lançons une deuxième vague avec un séminaire d'onboarding qui aura lieu le 9 novembre à Méholt, chez IndustriLab. Donc, il est encore temps de candidater, bien entendu. Et il y aura une troisième vague tout début 2022. Donc, j'invite l'ensemble des organismes de formation qui seraient intéressés à télécharger donc les éléments documentaires utiles à leur candidature sur le site du C2RP, bien entendu, pour pouvoir bénéficier de cette prestation qui, si j'en crois le retour d'expérience que j'ai eu hier d'une dirigeante d'entreprise, organisme de formation, c'est une dirigeante assez emblématique de ce qu'on est capable de faire dans le cadre de cet accompagnement, puisque aujourd'hui, elle est déjà en train de penser l'avenir au-delà de l'accompagnement et de créer des dispositifs ad hoc qui dépassent largement la prestation qu'on lui avait proposée. Et je trouve que pour nous, c'est le meilleur marqueur de la réussite d'un accompagnement. C'est bien quand un dirigeant dépasse la prestation de service qu'on a pu lui proposer. Et je pense que cette dirigeante a parfaitement compris les opportunités qu'il pouvait y avoir et les leviers de croissance que ça pouvait apporter. Voilà.
Et toutes les informations et tous les liens seront disponibles en accompagnement de ce podcast dès lors qu'il sera en ligne. Un grand merci, Arnaud, pour ce témoignage, pour toutes ces informations relatives donc à ce projet.
Merci Nicolas, et merci au C2RP pour son accueil.
Et merci de nous avoir écoutés. Vous retrouverez évidemment, comme je le disais, toutes les informations avec le podcast. À très bientôt, au revoir.
Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.